Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut à tous. Autre émission de Ça tient la route en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors ça sera l'émission spéciale Salon de l'auto.
Oui.
Salon de l'auto, ça s'en vient. En fait, si vous nous écoutez à la radio, c'est déjà arrivé.
Ben, c'est en train d'arriver,
ben
oui.
On enregistre évidemment un petit peu à l'avance pour notre balado. Mm-hmm. Et du 19 au 28 janvier, on le rappelle, si vous vous posez la question pour les dates. Donc, on a un show plus grand que l'année passée. D'ailleurs, notre invité va être le vice-président du Salon de l'auto de Montréal, Denis Dessureau, qui est là depuis des lunes. Denis va venir nous parler de ce qu'il y a, des modèles à voir, des choses à voir. Il n'y a pas que des modèles, il y a un peu plus de gens que l'an dernier. On va tout parler de ça avec Denis à notre segment entrevue. En essai routier, tu nous parles de quoi, mon cher Alain?
Écoute, j'ai conduit une petite, je peux pas dire une petite camionnette, j'ai essayé le GMC Canyon durant les fêtes.
Disons que c'est un trois quarts de plein gros camion.
On parle beaucoup des... c'est ça, parce que les camionnettes pleines grandeur, c'est rendu essentiellement des chars d'assaut, sont tellement gigantesques que je me suis dit, je vais aller dans quelque chose de plus petit. Mais ça reste quand même pas mal gros.
Ben, en fait, je serais curieux de voir, puis je dis ça, puis j'aurai l'occasion de le faire parce que je connais quelqu'un qui a un vieux Ford F-150,
exact.
Mais des années 80. Là. Mm-hmm. Je serais curieux de mettre un Chevrolet Colorado d'aujourd'hui à côté. Je suis sûr que c'est à peu près la même grandeur. Là.
Probablement, parce que, rappelle-toi, là, à l'époque, même chez Ford, le Ford Ranger,
ouais.
Qui est revenu quand même un peu plus gros de ce qu'il était.
Qui est revenu pas mal plus gros.
C'est ça. Donc, il y a vraiment une évolution dans ce sens-là.
D'ailleurs, j'ai reçu l'invitation pour le mois de mars qui s'en vient d'aller essayer le nouveau Ranger et le Ranger Raptor.
Parce qu'il va y avoir
une édition Raptor du Ranger. On va vous en parler en temps et lieu.
Mm-hmm.
Donc, moi, je fais l'essai du Lexus 500, RX 500H.
Oui.
Que j'ai eu la semaine dernière. Véhicule intéressant. Bien rodé, bien bâti. Et évidemment, on commence avec, comme à chaque semaine, nos nouvelles. Qu'est-ce que tu as au parfum? Tu nous ramènes encore un petit peu sur le CES parce qu'il y avait pas mal d'affaires au CES.
On avait beaucoup trop d'informations pour en faire juste un show la semaine dernière. Et puis, dans le thème de la camionnette en plus, il y avait une belle présentation là-bas qui devrait intéresser les automobilistes canadiens qui se magasinent une camionnette et qui songe à aller électrique.
Camionnette électrique, oui, évidemment.
Était au CES pour présenter des nouveautés, dont une camionnette électrique qui pourrait être vendue au Canada. En fait, si on écoute ce qu'a dit là-bas, parce que j'ai croisé le représentant de VinFast Canada.
Chanceux.
À Las Vegas. Personne élusive s'il en est. Il dit oui, on fait tout ce qu'on peut pour l'amener premièrement en production et deuxièmement au Canada. On s'entend, VinFast, s'ils arrivent à accomplir cette mission-là, pourrait frapper le gros lot là, avec son concept de camionnette tout électrique qui s'appelle le VF Wild, VF Sauvage. C'était conçu en Australie pour une marque vietnamienne, différent. Si on avait un vieux billet de 2$ à parier là-dessus, là, on dirait qu'il y a probablement plus de chances que ce véhicule-là soit en marché, soit vendu au Canada, que ce que qui était l'autre présentation au CES, c'est-à-dire le VUS électrique.
Le VF3, ouais.
Je dis VUS parce que c'est le mot utilisé, ou en tout cas l'expression utilisée par VinFast, mais c'est vraiment plus comme un mini VUS, maintenant micro VUS, je sais pas si on peut dire ça. C'est vraiment un petit véhicule qui a des airs de mini Countryman, en fait.
On pourrait appeler ça un MVUS, un mini véhicule utilitaire sport.
Exactement. Il faudrait rajouter une lettre, mais ça fait compliqué. Mais essentiellement, ce véhicule-là, le VF3, lui, est plus près d'une mise en marché, mais ailleurs qu'en Amérique du Nord.
Okay.
Alors que le VF World est un concept qui pourrait venir chez nous plus facilement.
Qui est pas laid, d'ailleurs.
Non. Techniquement, il y a quand même des choses intéressantes. Une de ses astuces, par ailleurs, c'est sa benne, là, la boîte, comme on dit, qui fait 5 pieds de longueur, mais qui peut être étirée jusqu'à 8 pieds en rabattant la cloison à l'arrière de l'habitacle. Et en abaissant la banquette, ce ne sont pas les seuls, évidemment, à faire ça, mais c'est une approche intéressante pour avoir de l'utilité accrue. Et on peut dire ce qu'on veut, en fait, à propos des camionnettes, mais à la fin de la journée, c'est la taille de la benne qui compte.
Oui.
Je veux dire comme ça.
Absolument.
Parce qu'on a beau être une garde au sol incroyable et tout le kit, si on ne peut rien mettre dans la boîte, c'est là que ça se complique. Et avec cette formulation-là, la VF Wild deviendrait la camionnette avec le plus grand volume de chargement de sa catégorie. On ne sait pas trop, cela dit, à quoi pourrait ressembler l'habitacle d'une version de production de ce modèle-là, mais le concept présenté à Las Vegas, c'était évidemment très moderne. Il y a de la place pour 4 adultes. Les portières s'ouvrent à l'opposé, donc c'est assez différent de ce qu'on voit normalement, parce que généralement, on a 4 portières qui s'ouvrent dans la,
oh,
la même façon.
Le principe des portes à ouverture opposée. Là.
Exactement, mais le problème avec cette ouverture à l'opposé, c'est que on voit ça sur à peu près tous les concepts de véhicules qui se veulent utilitaires, mais quand ça devient en marché, on revient à une...
Quand les ingénieurs s'en mêlent, ça devient beaucoup plus simple.
Exactement. la mécanique est inconnue, évidemment. Ce qu'on sait, c'est qu'elle serait électrique naturellement, qu'elle serait vendue et non offerte en un modèle d'achat-location, là, Kevin Fast a fini par abandonner, heureusement, sur ses autres véhicules. Son prix détail pourrait se situer autour des 55 à 60 000 $, ce qui serait bon, cher ou pas cher selon où vous vous situez. Évidemment, il reste plus de questions que de réponses à propos de ce modèle-là. Cela dit, avec la VF Wild, une face pourrait s'immiscer dans un marché encore tout naissant de la camionnette électrique, où on trouvera bientôt des modèles appelés Rivian, R1T et même Fisker Alaska.
Oui.
C'est pas des choses qu'on dit souvent.
Non. Parce qu'on n'en a pas vu beaucoup encore.
Ben non, c'est ça. Là, on voit un peu le Cybertruck de Tesla se promener. Il y a évidemment le F-150 Lightning, mais ça commence
les Cybertrucks ne sont pas rendus au Canada. Le Rivian, il y en a 5 ou 6 en Colombie-Britannique.
Exact.
Puis Alaska, on n'en a pas vu pas un. Alors, tu sais, on commence à penser à un modèle quand on le voit ses routes. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas vu ses routes, ça reste encore sur papier.
Voilà.
Ou on a vu ça dans un livre ou quelque part, dans les nuées de l'automobile.
Par exemple.
Bon, par exemple,
oui,
mais,
voilà.
Mais effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire pour implanter ces véhicules-là sur le marché.
Exact. Donc, c'est un concept. On l'a millésimé 2026. Donc, est-ce qu'on veut le mettre en marché quelque part en 2025? C'est à suivre.
OK. Puis, Honda Zero Series. Parle-moi de ça, parce que ça aussi, ça a fait jaser pas mal.
Écoute, Honda a tergiversé. Honda a jonglé. Honda a même confié tout le sale boulot à un rival qui était la plateforme Ultium de GM pour ses premiers véhicules électriques. Mais voilà que la direction de Honda a tranché. Son futur sera bel et bien électrique. Ça devrait débuter là, officiellement quelque part en 2026 et ça va s'inspirer d'un véhicule, en fait de deux véhicules concept qui s'appellent Zero Series. Je sais pas comment ils disent en anglais américain, parce que nous, en français, on dit zéro en anglais, canadien, on dit zéro, puis en anglais,
oui.
On dit O. Donc, je sais pas si c'est la O-Series qu'ils disent en anglais, mais bref, c'est le nom qui a utilisé...
En tout cas, c'est un zéro.
C'est un zéro.
Si
ouais,
vous
c'est
la question.
Quand tu y penses, pour situer l'avancement de Honda dans son virage électrique en ce moment. Pas loin de zéro. Pour le moment, donc, on a deux véhicules concept à se mettre sous la dent. Ils ont été présentés au CES, eux aussi, au début janvier. Il s'agit du Saloon et du Space Hub. Il y en a un qui fait un peu western et l'autre qui fait futuriste. Les deux concepts sont des monospaces très profilé à l'avant, là, avec une portion évidemment très aérodynamique, jusqu'à peu près au milieu. Et à l'arrière, c'est très carré, c'est coupé au couteau. Ça, on se veut une espèce de mélange de modernisme et d'utilité. Honda a dévoilé une nouvelle version de son logo, la lettre H, la fameuse lettre H, qui est arrondie pour aussi avoir l'air d'un zéro,
ouais.
D'où le Zero Series. Et ça va devenir, si on comprend bien, la marque au sein de la marque sous laquelle seront regroupés ces futurs nouveaux véhicules électriques. Il reste beaucoup de questions là aussi en suspens là, à propos de la stratégie d'électrification de Honda, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va reposer sur 5 piliers clairs. D'abord, Honda espère que l'esthétique de ses véhicules produira chez ses clients une résonance, c'est le mot qu'on a utilisé. Appelons ça, disons, un sentiment de familiarité positif auprès des amateurs de la marque. Ensuite, Honda veut miser à fond sur l'aide avancée à la conduite, jusqu'au point d'une conduite pleinement autonome. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tous les autres fabricants font la même chose.
Exactement, oui.
À bord, Honda espère créer un sentiment d'espace, peut-être dans le sens de safe space, parce qu'on le dit vraiment dans ce sens-là, où les gens se sentiront à l'aise, en sécurité et connectés à leur environnement. Honda insère ici l'importance de l'Internet des objets, les fameux objets connectés et les technologies de communication embarquées, là, qu'on pense à système de multimédia et ainsi de suite. Enfin, Honda veut s'assurer que ses futurs véhicules auront une des meilleures efficacités énergétiques sur le marché. Il faut dire qu'il y a une place à prendre de ce côté-là, parce qu'il y a à peu près juste Mercedes, quand on y pense, qui parle de cette importance de consommer peu d'électricité
exact.
Sur un moteur électrique d'un véhicule électrique, parce que souvent, on a une espèce de consommation axée sur l'ultra-puissance.
En quelque part, Honda garde les préceptes qu'on avait dans les moteurs essence.
La Civic, le CVCC de l'époque.
Bon,
le
CVCC, les modèles hybrides, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Honda est arrivé avant Toyota sur le marché avec des modèles hybrides, même si le succès n'a pas été aussi grand.
Mm-hmm.
Et même M. Honda, Soshiro Honda, était un environnementaliste avant l'heure.
À la base. Oui.
Donc, ça reste dans les, je dirais, l'ADN d'Honda de tenter de faire le mieux possible avec l'énergie qu'on utilise, que ce soit essence ou électrique.
Ou
donc ça,
exactement.
J'ai bien hâte de voir parce que j'ai encore, malgré tout, confiance. Honda a été un motoriste hors pair. On l'a prouvé à tous les niveaux, en F1, en Indy, dans les voitures de production, et on s'est un peu beaucoup laissé aller pendant un bout de temps.
Oui.
Et là, on a vu les Coréens arriver très agressifs derrière et littéralement ramasser le marché sous les pieds d'Honda.
Mm-hmm.
Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve qu'Honda mérite, ils ont travaillé fort, ils ont eu beaucoup d'audace à ses débuts. Une compagnie qui se lance en F1 avant de faire un premier véhicule de production.
C'est pas rien.
Fallait avoir des couilles solides pour pratiquer une affaire comme ça.
Et
ça a fonctionné.
Et je dirais ceci, des sociétés japonaises sont fortes en électronique aussi.
Oui, absolument.
Donc, comme les voitures électriques sont essentiellement de la grosse électronique, on peut imaginer que Honda et Toyota aussi, même s'ils sont un petit peu en retard parce qu'ils ont, rechigné, ils ont un petit peu piaffé avant de se lancer. Ils peuvent rattraper ce retard-là facilement.
Exact.
Je vais finir sur Honda à propos de la série Zéro, en tout cas, disons qu'elle s'appelle comme ça en français. On dit, c'est important que tout ça ne nuise pas au plaisir de conduire et au fait que le véhicule et que le conducteur ne fasse qu'un sur la route.
Exact.
Donc, ça va être des véhicules qui vont quand même être conduisibles pour tout ce que
ça intéresse. J'ai bien hâte de voir ça.
Ben oui.
Moi, j'ai deux petites nouvelles rapides. Tiens, une nouvelle qui va chercher, disons, dans le milieu de genre célèbre.
Oh!
Lamborghini a dépassé 10 000 ventes en 2023.
Ah, wow!
Alors, on dit souvent que les compagnies qui réussissent bien n'ont pas les mêmes problèmes que d'autres pendant les récessions. Les gens riches sont moins affectés par la récession. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on en a une preuve assez tangible ici. On a réussi du côté de Lamborghini à largement dépasser les objectifs qu'on avait fixés. On avait vendu 9233 véhicules en 2022. On en a vendu 10112 en 2023. Faut dire que le succès repose beaucoup sur la Urus.
J'allais dire, effectivement,
6087 Urus. C'est pratiquement le deux tiers des ventes de tous les produits Lamborghini. Il y a la Huracan avec 3000 et des poussières. Puis bon, le reste, les miettes, ça va à la Vantador, là, parce que bon, il s'en est vendu seulement que 63. Mais puis c'est intéressant. Les ventes les plus impressionnantes qui ont été enregistrées, c'est en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. On a eu 3987 voitures vendues dans ces régions-là. L'Amérique suit avec 3465 et l'Asie-Pacifique 2660. C'est drôle, j'entends l'Afrique, puis je me dis, attends, OK, le Cap peut-être, Johannesburg.
L'Afrique du Sud,
mais
ben,
c'est probable.
Il y a des marchés.
Et il y a des dictateurs dans la moitié des pays d'Afrique qui doivent acheter une Lamborghini, c'est sûr.
Il y a des entrepreneurs millionnaires au Kenya, de les technologies d'Internet mobile, entre autres, qui ont peut-être les moyens aussi.
Alors, mais tu sais, l'Afrique, moi, c'est pas le premier pays qui me vient en tête quand je parle de gens qui ont des sous, mais effectivement, il y en a là-bas. Autre nouvelle intéressante, qui n'est pas très longue, mais Mazda a décidé, elle aussi, de passer la borne de recharge NACS de Tesla.
Ça change la game, ça.
C'est ça. Pour l'unique modèle MX-30 le moment. Bon, il est clair que probablement que, évidemment, les prochains modèles qui vont venir vont également avoir quelque chose de plus à se mettre sous la dent.
Mm-hmm.
Disons que probablement que les propriétaires d'un MX-30 vont peut-être apprécier de pouvoir charger rapidement sur des bornes Tesla, parce que Dieu sait qu'ils ont besoin de recharger un peu souvent.
Je veux dire, ça prend combien de temps à recharger cette batterie-là? Ça peut prendre 5-6 minutes au moins?
Ça prend, effectivement, ça prend quelques minutes. Mais disons que sur une borne rapide, ça va aider la cause, parce que Tesla, c'est du 150 et du 250 kilowatts. Donc, c'est des bornes très rapide, ça devrait aider. Mais je suis curieux de voir le MX-30 jusqu'à combien il peut prendre. Il faudrait que je vérifie. Je suis pas sûr qu'il peut prendre du 150.
Je serais plus
proche du 100 là, que du 150, mais ça, faudrait que je vérifie. J'ai pas ça par cœur pour le moment. Alors, ça complète nos petites nouvelles. On va aller à une première pause et on revient avec Denis Dessureau du Salon de l'Auto de Montréal.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois.
Ouais.
Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
C'est un moment de l'année charnière pour le monde automobile. C'est le Salon de l'auto qui revient. Toujours au Palais des Congrès. Cette année, on nous a promis qu'on était sur les trois étages, qu'on va remplir le Palais des Congrès. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis pour en parler un peu plus en détail avec nous, on a le vice-président exécutif du Salon de l'auto de Montréal, Denis Dessureau. Salut, Denis!
Bonjour Benoît.
Hey, merci d'être là, Denis. C'est toujours agréable, c'est toujours apprécié aussi parce qu'on le sait, là, vous autres, vous êtes sur un horaire de 24 heures pour finir les derniers préparatifs du salon.
Ah, exact.
Écoute, d'abord, parle-nous de c'est le 79e salon, là?
N'entendais pas trop, c'est le 79e. Okay. Le premier salon a eu lieu en 1914. Hein? Il n'y a personne ici qui était là.
Non, je ne me souviens pas de ça, moi.
Mais la corporation de concessionnaires avait organisé son premier en 1914. Donc, si on se ramène en 2024, ben c'est ça. C'est notre 79e. On est content. On revient sur les trois planchers.
OK.
Je sais pertinemment que l'année dernière, ça a été une déception pour plusieurs, autant pour les visiteurs que pour nous. On a dû, avec toutes les cancellations qu'on avait des manufacturiers, on avait dû faire présenter le salon sur un seul plancher.
Ouais.
Là, cette année, on revient et sur les trois, puis on a vraiment des belles choses à montrer.
Bon, parle-nous un peu par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qui n'était pas là l'an dernier, qui sera là cette année?
Dans ceux qui n'étaient pas là et qui reviennent, on parle de Ford, Lincoln, Genesis, Mitsubishi, Infiniti, Volkswagen, McLaren.
Ah oui, quand même. Fait que ça fait un bon lot de personnes. Oui. Vous avez aussi des attractions spéciales. On sait que Luc Poirier était là l'an passé avec une partie de sa collection. Mais il y a une très grande collection. Fait que là, il amène une autre partie de sa collection cette année, si j'ai bien compris.
C'est sûr, j'ai le privilège de tout voir ça avant tout le monde, étant donné qu'on est là pendant le montage. C'est assez incroyable de voir ces 31 Ferrari-là de 1967 à 1923 de toute beauté.
À 2023.
Oui, 2023.
La 2023, oui, parce qu'en 1923, il n'y avait pas de Ferrari.
C'est 1923, je suis désolé. En 2023.
Oui, il a reçu. Puis Luc a acheté en quantité industrielle depuis quelques années. Ouais. Là. Donc
Et
ça, ça va
juste
être.
Juste des deux places. Il n'y a pas de quatre portes, deux portes.
OK.
Oui, c'est juste des deux places.
OK, fait qu'il a amené les modèles, puis je pense que ces modèles, c'est ces grands classiques.
Est-ce que j'ai compris aussi M. Poirier allait être là en personne, parce qu'il est porte-parole du salon, je pense, cette année?
Il n'est pas porte-parole du salon. Par contre, il va venir plus souvent que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait eu des petits ennuis de santé. Mm-hmm. Mais là, cette année, il va être là et il a promis... de toute façon, il a écrit un livre. Il va présenter son livre aussi aux gens qui voudront bien le voir et l'acheter. Mais non, on est super contents là, de sa participation. Puis c'est réciproque. Hein. Autant on est content de le voir, autant il est content de venir parce que c'est un maniaque de tour, vous le savez. Là.
Mm-hmm. Ah oui, Luc, nous, dans le milieu automobile, on a eu la chance de le rencontrer parce que, effectivement, puis Luc est très ouvert et très accessible. T'as besoin de le rencontrer pour quelque chose, tu vas le voir. Il est pas compliqué, là. C'est un bonhomme agréable, là. Qui ne se prend pas pour un autre.
Alors, ça, en plus,
oui.
Pour cette partie de collection-là, là, on parle d'une valeur de 50 millions.
Quand même.
Il y en a cinq autres dans un autre kiosque qui a amené également.
Okay.
Donc, ça, c'est une de nos nombreuses attractions. On en a 10 attractions.
Bon,
cette année.
Parle-nous donc des autres. Là. Bon, évidemment, les voitures électriques, je pense que vous avez encore une section là, qui touche à ça.
Véhicules électriques?
Non, au niveau électrique, qu'est-ce qu'on a au salon?
Ben maintenant, les véhicules électriques font partie maintenant du salon. On n'a plus une zone dédiée à ça parce que tous les manufacturiers présents en ont. On a les essais routiers électriques où on va.
Ah, c'est ça, je voulais dire avec le CA.
Oui, c'est ça. Avec CA Québec, on a 16 véhicules qui vont être prêtés aux visiteurs pour faire des essais routiers. Juste ces 16 véhicules-là, tant qu'à être dans les millions, là, ces 16 véhicules-là ont une valeur de 1,2 million. Ça vous donne une idée de la qualité des véhicules que les gens vont pouvoir essayer, dont entre autres le Hummer EV3X.
Ah oui!
Oui, ça, je pense qu'il va y avoir une file d'attente juste pour
oui,
ça.
Il va falloir aller donner votre nom vendredi matin tôt.
Mais il y en a de Cadillac, de Ford, de Genesis, de Hyundai, Kia, Lexus, Nissan, Toyota, VinFast aussi, avec deux véhicules.
J'allais demander, parce que VinFast me disait la semaine dernière qu'ils essayaient d'apporter leur concept de camionnette qu'on a vu au CES à Montréal. Est-ce que tu peux nous dire si elle sera là ou pas?
Elle est là.
Oh! Ça, c'est quelque chose. C'est une première, c'est une deuxième mondiale. C'est une deuxième nord-américaine aussi, mais c'est une belle, c'est un véhicule qui vaut la peine d'être vu.
Ben oui, absolument. Elle a été présentée la semaine dernière au CES, puis là, elle va être ici également. Fait que
c'est puis parmi les autres attractions, je pense qu'il y a un hommage à Guy Lafleur. Il y a le garage de rêve de Hugo Girard. Parle-nous un peu de ça.
Ben, pour l'hommage à Guy Lafleur, écoute, j'ai une équipe avec moi, hein, fait que c'est eux qui ont travaillé sur le projet, mais je sais qu'il y a un véhicule là qui est fait en son honneur. Pour le garage de rêve d'Hugo Girard, c'est dans notre section zone autosport.
Okay.
Il va y avoir le garage de rêve d'Hugo Girard, puis les gens vont avoir la chance de gagner une réplique d'une valeur de 32 500 $. Donc ça va être vraiment intéressant. Pour les maniaques et ceux qui ont des garages, on s'entend. On a le cube électrifié de Ford qui va être là, qui est un simulateur de Ford. On a ça va être intéressant aussi. L'expérience Coupe Nissan Sentra qui est propulsée par D-Box. On a fait on a créé un cinéma interactif dans lequel il y a une vingtaine de personnes qui vont être assises sur des sièges de D-Box et ils vont devant eux, il y a l'écran géant, et puis ils vont sentir tous les soubresauts, les courbes, et ainsi de suite, là, dans les sièges de D-Box.
Comme si vous étiez en course.
Exactement. Ah, et j'ai croisé Eric. Pas, j'allais dire Éric Descarrés. On les mêle tout le temps. Jacques Deshaies. Oui. Et puis...
Jacques sera content d'entendre ça.
On les mêle tout le temps.
Excusez,
deux collègues qui ont un petit air de famille.
Oui, on passe un insight ici.
Oui. Alors, c'est ça. Donc, Éric, il dit, je l'ai essayé ce matin, Denis. Il dit, c'est capoté. Alors, une autre attraction qui va être intéressante. Mm. On a le groupe Shelby aussi présenté. C'est-à-dire, on a Shelby présenté par le groupe Olivier qui va être là.
Ouais, ils sont au 7e, je les ai vus. Sont pas loin de mon kiosque, eux autres, je les ai vus ce matin.
Ouais. Et puis, une nouveauté cette année, en collaboration avec l'Association des concessionnaires des véhicules de loisirs du Québec, ils présentent la zone des véhicules de loisirs. Ça va être une sélection qui est diversifiée de motocyclettes, de quads, de motoneiges, de bateaux. On en a électrique à essence.
Ah.
C'est vraiment impressionnant.
Okay.
Je vous le dis. Moi, j'ai dit, tantôt, je parlais avec le directeur de la CVLQ, là, de l'association, puis j'ai dit, moi, vendredi matin, je m'en vais me poster devant la porte pour voir les O et les A des visiteurs quand ils vont rentrer dans cette salle-là. C'est pour eux, c'est une nouveauté aussi parce qu'ils vont s'adresser à une nouvelle clientèle.
Oui.
Par contre, tu sais, les gens qui viennent au salon de l'auto, c'est pas nécessairement des gens qui iraient au salon de la moto, du bateau, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais là, ils vont avoir un échantillonnage de ces véhicules-là, puis c'est toutes des nouveautés. Et il n'y a pas de redondance. Il n'y a pas 3-4 personnes qui ont les mêmes modèles. Là. C'est toutes des modèles.
C'est tous uniques.
Tous uniques. Okay, donc okay. Ça va être le fun. On a la zone autosport aussi avec des véhicules d'exception qui vont être modifiés, des motoneiges vintage, des motos modifiées, des voitures de course, des simulateurs. On a la zone performance tuning. On a 30 véhicules modifiés. Puis ça, la zone tuning, c'est toujours populaire. C'est toujours apprécié déjà. Qu'est-ce qu'il me reste? Je pense que j'ai fait le tour.
Si on revenait aux voitures, qu'est-ce que t'as en première canadienne, en première nord-américaine chez les manufacturiers qui sont là?
Dans les premières, on a chez Hyundai et Kia qui a des dévoilements. Puis là, mon cher Benoît, c'est l'information qui me manque parce que j'ai pas fait tous mes devoirs.
OK.
Il y a tellement.
On va t'enlever une étoile sur ton bulletin, Denis.
Est-ce qu'il y a par hasard le Santa Fe? Je veux dire ça comme ça.
Le Santa Fe, oui, il va être là.
Ah bon, mais voilà. Ça, les gens vont trouver ça.
Et Sorento.
Et le nouveau Sorento, probablement Sorento. Aussi, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Dans les autres, si on parle de nos amis de GM, qu'est-ce qu'il y a de bon du côté de chez GM?
Chez GM, il va avoir le Celestiq, la fameuse voiture.
Ah oui,
la
Cadillac,
$1.
Bien sûr.
Il va avoir la Cadillac Escalade EQ. Mm-hmm. Ils ont plusieurs versions du Lyriq.
OK.
Chez Chevrolet, ils ont le Blazer électrique, le Equinox électrique.
La Corvette E-Ray aussi, je pense.
Oui,
la Corvette. Ça va être intéressant.
Oui, et puis je l'ai mentionné tantôt qu'il va même être en essai routier, mais le Hummer électrique qui va être là.
Exact. Puis donc, OK, Genesis va être là aussi, probablement avec des modèles courants, parce que je suis pas sûr que le G70 va être ça. Le Ioniq 5N aussi, mm-hmm, va être là. Ça, c'est intéressant. Modèle que j'ai vu en Californie il y a quelques mois. Lexus GX, qui va être en première canadienne, je pense qu'on, nous, on a vu. Mm-hmm. On va essayer à la fin du mois. En fait, moi, j'y vais pas parce que je suis ailleurs au même moment. Mais ça aussi, ça va être un modèle intéressant. En fait, c'est l'équivalent du Land Cruiser de Toyota, mais du côté de chez Lexus, modèle qui est très beau. Nouveau Nautilus, je pense, du côté de chez Lincoln. Puis McLaren va avoir une McLaren 750S Spider. Ça, monsieur.
Je m'en allais suivre avec ça. Toyota va avoir la Camry hybride, mais je pense que c'est dans une autre catégorie.
Oui, non, on peut rêver. Donc, Denis, ça commence quoi? Ça commence ce vendredi?
Ça commence ce vendredi. On commence tout le temps la veille, le jeudi, avec la journée de presse. Et en soirée, on a notre gala, notre avant-première bénéfice qui va au profit des 5 fondations hospitalières. Donc ça, c'est tout le temps une belle soirée. Ça commence donc vendredi le 19 et ça se termine dimanche le 28. C'est ouvert de 10 à 9 à tous les jours, sauf le dernier dimanche.
Oui, ferme à 6 heures.
Un petit secret, on ne le dira pas à tout le monde, là, mais si vous voulez faire une belle visite tranquille puis avoir le temps de vous asseoir dans un véhicule, là, venez les lundis, mardis, mercredis, jeudi, là, c'est ouvert à partir de 9h, de 10h le matin jusqu'à 9h le soir. Ça, c'est parfait.
Et on demande aux gens d'arrêter au kiosque de l'annuel de l'automobile, évidemment.
Venez vous dire
qui
bonjour,
est au 7e étage. Exactement. Venez nous dire bonjour. Si vous avez des questions automobiles, on a évidemment des annuels de toutes les éditions qui vont être là, l'annuel de l'auto d'occasion.
Pas mal tous les auteurs vont passer à un moment donné.
Les auteurs vont être quelque part là dans la semaine, pas tout en même temps, mais on va tous aller faire notre tour. Moi, je vais finir mon kiosque en finissant cette émission. Donc on est là-dessus. Ben écoute, merci Denis. On va suivre ça de près. C'est toujours un événement majeur à Montréal, le Salon de l'Auto. Puis je pense que le fait de ramener tout ça sur 3 étages en amenant des nouveaux joueurs, ça va, je pense que ça va encourager les gens. Puis ça demeure un événement qu'il faut voir une fois pendant les 10 jours du Salon.
Absolument. Ben merci. On se voit demain, les gars.
Merci Denis.
Salut, Denis.
Ça marche.
Merci.
Bye bye.
Salut.
Alors, c'est Denis Dessureau, vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal, qui se déroule, on le rappelle, au Palais des Congrès du 19 au 28 janvier. C'est ouvert tous les jours de 10h à 9h, sauf le 28, la dernière journée, c'est de 10h à 18h. Alors, merci Denis. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le moment de parler de nos voitures. Mais juste avant, évidemment, si vous voulez nous écouter, très facile, vous allez sur la section balado du 98.5 FM à Montréal et vous arrivez à « Ça tient la route ». Alors, vous allez écouter là. Vous pouvez vous abonner. On est sur pratiquement toutes les plateformes où on diffuse des balados. Allez sur annuelauto.ca, on est là aussi. On fait une mise à jour hebdomadaire, donc les plus récentes émissions. Et toutes les anciennes émissions sont là, d'ailleurs. S'il y a une émission, on parlait de telle affaire, allez voir dans les archives, tout est laissé sur le site. Et évidemment, abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. Voilà. Quand l'émission arrive et qu'elle est prête, on vous envoie un petit avertissement, un petit bip-bip, et le tour est joué. Alain, tu as conduit une camionnette qu'on dit compacte, mais qui finalement n'est pas si compacte que le nom le puisse le laisser entendre.
Non, effectivement, une petite camionnette, est-ce que ça existe vraiment? La question peut être posée. Il y avait quand même un intérêt à essayer le GMC Canyon. On le sait, là, on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus. Le véhicule le plus vendu au Canada, c'est le F-150. Oui. C'est une camionnette quand même assez grosse.
Dans depuis 58 ans, d'ailleurs.
Ah, hein? C'est fou, pareil.
C'est fou.
Ouais, ouais, ouais. Le duo GM, Chevrolet GMC, là, les Silverado et Sierra, arrivent pas tellement loin non plus dans les véhicules les plus vendus. Donc, ce sont des véhicules très populaires. Pas très petits, eux non plus, en fait, les deux modèles GM. Donc, si on veut aller dans l'intermédiaire, je pense qu'il faut mettre des guillemets là-dessus, ben le GMC Canyon est tout indiqué. Cela dit, dans l'intermédiaire aussi, parce que là, ça commence à être un peu plus diversifié, là, le marché de la camionnette, parce que les marques japonaises, coréennes ont des offres, mais c'est dans un autre genre de créneau. Ce qui fait qu'on revient à GMC Canyon, il y a le Chevrolet Colorado aussi qui est dans la même créneau.
Exact.
Premier indice que les camionnettes intermédiaires ne sont pas des demi-mesures, c'est du côté de leur prix.
Oui.
Pas le choix. Le Canyon est le modèle un peu plus huppé d'une paire de véhicules avec le Chevrolet Colorado là, qui sont très bien vendus chez GM. Son prix de base au Canyon est un peu plus de 50 000 $. Ça monte jusqu'à 70 000 $ pour le modèle AT4X. AEV, c'est compliqué, qui est fait sur mesure pour les amateurs de sentiers rocailleux, de hors-piste, de volcans à explorer, bref. Il y a de quoi s'amuser, mais disons qu'à 55 000 $ là, vous avez la version la plus raisonnable de ce modèle-là. Donc, c'est quand même un prix qui ne... c'est pas une aubaine, je vais dire ça comme ça.
Non.
Cela dit, c'est pas un gros casse-tête non plus quand on magasine d'une Canyon. Peu importe la version choisie, le moteur reste le même. GMC opte pour un 4 cylindres turbo de 2,7 litres qui produit une puissance de 310 chevaux et un couple de 430 livres-pieds. Pour un 4 cylindres, c'est beaucoup. Chevrolet offre en entrée de gamme de son côté une version un peu moins musclée à peu près du même 4 cylindres turbo là, qui fait 230 quelques chevaux, je pense. Mais qui permet aussi de vendre le véhicule moins cher. Donc, c'est à vous de voir. Peu importe la cylindrée, cela dit, on irait d'une boîte automatique à 8 rapports qui est irréprochable. Ça, c'est vraiment un élément. On dirait ce qu'on voudrait des camionnettes GM. Là, on peut pas se plaindre de la façon dont la puissance est transmise aux roues motrices. Je le dis comme ça, c'est un peu alambiqué, mais ça veut dire qu'essentiellement, on aime beaucoup la boîte de transmission. L'étagement est parfait, à vide ou avec une remorque ou avec la boîte pleine. Le 4 cylindres du Canyon a du couple en masse presque tout le temps. Je pense qu'il est à 90% de son pic. Au niveau du régime au idle, donc au neutre, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas la sonorité d'un 6 ou d'un 8 cylindres, évidemment, mais il livre la marchandise côté muscle. On pourrait dire, par contre, qu'il a l'appétit aussi d'une plus grosse cylindrée. Sa consommation moyenne avoisine les 13 litres au 100 km à vide sur l'autoroute. À mon avis, très humble, GMC aurait pu faire mieux là-dessus. En fait, je pense que le V6 offert dans les années passées faisait mieux en termes de consommation, lui
J'aimais
aussi.
J'aimais beaucoup le V6, moi. Honnêtement, donc, je trouvais que c'était le moteur qui allait le mieux avec ce châssis-là.
Exactement. Ce qu'on en retient, là, mécaniquement parlant, c'est que le Canyon et le Colorado aussi, pourquoi pas, semblent cibler avant tout une clientèle professionnelle, je vais dire comme ça, qui a régulièrement besoin de remorquer ou de transporter des charges pesantes, mais qui ne cherche pas un plein format de camionnette. La capacité de remorquage du Canyon est de 7700 livres, soit la plus élevé de la catégorie. L'accélération, évidemment, ne décoiffe pas, mais le couple est assez généreux justement pour pouvoir tirer une charge assez pesante. Avec des roues de 20 pouces, des porte-à-faux très courts et une bonne garde au sol, le Canyon, c'est aussi un des véhicules les plus aptes à se sortir du pétrin sur les sentiers hors-route. Ça sonne comme une phrase que tu entends dans une publicité de GM, et ils ont raison, parce que c'est un véhicule qui est très habile. Et là, on est l'hiver, donc je peux dire dans la neige, mais dans la gadoue, ou dans la boue, ou dans peu importe le type de sentier, ça marche aussi très bien. Au volant, ça se traduit par un comportement évidemment qui a les qualités de ses défauts. Bon, évidemment, c'est bon pour remorquer, c'est bon pour leur route, mais et cela dit, on peut évidemment ajuster le comportement du véhicule grâce à un sélecteur de mode de conduite qui altère un peu le comportement général de la camionnette, mais dans l'ensemble, on conduit une vraie camionnette, c'est-à-dire que la suspension a un débattement plutôt généreux. Et si vous frappez un dos d'âne rapidement, ben vous allez vous sentir partir en air, dans les airs, comme si vous envoliez. Mais en revanche, elle absorbe avec douceur les nids de poule, qui sont la plupart du temps les principaux obstacles qu'on rencontre sur la route, même avec une camionnette. Au volant, on ne va pas s'exciter non plus avec la présentation de l'habitacle. GM a déployé dans à peu près tous ses véhicules en 2024 un nouveau système d'affichage à deux écrans dont l'interface est vraiment minimaliste, pour pas dire vraiment plate. On imagine, parce qu'on ne sait pas encore, mais que c'est pour faire la place à la prochaine version des interfaces connectées CarPlay et Android Auto, là, qui vont personnaliser, en plus du système multimédia, aussi les cadrans derrière le volant. Mais ça reste à voir. Pour l'instant, disons que je trouve qu'on a beaucoup d'écrans pour peu d'informations à bord des véhicules GM cette année. Peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il va y avoir des mises à jour par les réseaux sans fil qui vont rendre ça plus joli. C'est à suivre. Entre-temps, on a un habitat qui, s'il n'est pas particulièrement luxueux, ni même, je dirais, élégant, est assez spacieux, cela dit, pour 4 ou même 5 adultes.
Il est pratique, d'abord et avant
exactement.
Tout, comme la majorité des véhicules de ce type-là, des camionnettes. Tu sais, le Ranger, c'est un peu pareil.
Exact.
Le Nissan, si tu regardes le Frontier, qui est un autre concurrent, c'est un peu pareil aussi. Tu sais, on peut jouer avec les boutons avec des gants. Tu sais, c'est fait pour être manipulé.
Ouais.
À défaut d'être joli, c'est pratique.
Ben, je cherchais un différenciateur aussi entre GMC et Chevrolet, parce que GMC, c'est une marque créée pour reproduire les véhicules des autres marques, mais de façon un peu plus...
En fait, GMC est un peu plus haut de gamme.
Professionnel, tu sais, genre...
Ben, c'est ce qu'on a mis dans les annonces.
À la limite commerciale.
Le grade professionnel.
Exactement.
On a toujours mis un petit peu plus d'élégance dans la présentation extérieure du modèle, dans les calandres, dans le profil du véhicule. Bon, chez nous, ça fait pas vraiment de différence parce que la quantité vendue fait en sorte que ça change rien.
Ouais.
Le portrait américain est tout à fait différent, par contre, parce que il y a beaucoup de concessionnaires GMC qui vont, comment dirais-je, il y a une clientèle pour du GMC
spécifique.
Aux États-Unis
ben oui,
plus
voilà.
élevée. Mm-hmm. Qui justifie en partie pourquoi on va se donner la peine de faire un modèle différent.
Mm-hmm.
Mais chez nous, souvent, ça relève de peu de choses parce qu'ils n'en vendent pas assez pour ça vaille la peine.
On s'est posé la même question avec Buick la semaine dernière, mais c'est un peu ça aussi.
Oui.
À mon humble avis, si j'avais à dire, le Canyon a peut-être tout ce qu'il faut pour convaincre plusieurs acheteurs d'une Sierra de rétrograder un brin pour économiser sur le prix de vente. Et avec un peu de chance aussi sur le carburant, parce que c'est quand même un peu plus gros.
Oui.
J'étais avec mon garçon pour aller chercher le Canyon pour l'essayer, puis il était « Wow, je cherchais une petite camionnette », et il a vu la Canyon était grosse. Et à côté, il y avait une Sierra qui était encore plus grosse.
Exact.
Et là, il a fait comme « Wow, c'est vraiment gros, ça ».
Mais,
donc,
mais
c'est
tu regardes même les pleines grandeurs, là, tu regardes un modèle comme le Silverado d'il y a 10 ans, puis celui d'aujourd'hui, tu dis « Seigneur, on les a gonflés aux hormones, ces modèles-là, pour
exactement.
Le vrai ». Ça a pris beaucoup de panache dans ces années-là.
Exactement. Ce qui fait que, à mon avis, encore une fois, je pense qu'il y a de la place dans le marché pour une vraie camionnette américaine de format intermédiaire. Parce qu'on a quelque chose de plus petit là, mais ça reste encore assez relativement gros. Donc, on pourrait peut-être trouver de la place. Mais Ford le fait bien.
Regarde ce que Ford, on a fait avec le Maverick. Tu sais, on est arrivé avec le Ranger en disant « Voici notre intermédiaire. » Mm-hmm. Puis là, finalement, c'est un trois-quarts, c'est plus un intermédiaire. Puis là, whoop, le Maverick est arrivé et ça s'est vendu. On a manqué de modèle les premiers mois. Parce
donc,
que
clairement, il y a une demande pour ça.
C'est ça que les gens veulent. Parce qu'il y a des gens qui aiment le côté pratique, mais qui n'ont pas besoin de charrier un chantier de construction tous les matins en partant de chez eux. Là, les gens vont jardiner, vont amener vélo, vont amener... Tu sais, c'est rien de lourd. Mm-hmm. Bon, aller faire l'épicerie, d'avoir un espace... Alors, et le Maverick a extrêmement bien répondu à cette attente-là, et c'est pour ça. Puis en plus, Ford a eu l'excellente idée de faire du modèle hybride le modèle de base.
Oui.
Donc, moins de consommation de carburant.
Mm-hmm.
Et là, littéralement, on a manqué. Là, c'était 19 999 quand c'est sorti aux États-Unis, ce modèle-là, et les gens se sont rués, mais vraiment, sur le modèle.
Voilà.
Et c'est encore un modèle populaire aujourd'hui et qui remplit bien la fonction de dire « c'est pratique ». Mais j'ai pas besoin d'un autobus dans ma cour. T'sais, absolument.
Donc, note à GMC.
Il y a de la place pour baisser un peu, effectivement. Écoute, moi, j'étais dans le luxe cette semaine. On peut appeler ça comme ça. J'étais dans un... En fait, la semaine dernière, parce que cette semaine, je vais vous en parler la semaine passée, j'ai mon mastodonte. Je suis en Grand Wagoneer L. Parce que c'était pas assez ordinaire.
Parlant d'autobus, ben oui.
Parlant d'autobus, oui. À quoi ça n'a pas de bon sens, c'est gros.
C'est le plus gros véhicule léger sur la route au Canada.
Léger. Oui,
ouais, ouais, non, mais léger.
Oui, non, je comprends.
Terme technique ici pour dire lourd,
oui, parce
mais pas si
il n'y a rien de léger à propos de ce véhicule-là. Mais là, j'étais la semaine dernière dans une RX 500H, qui est en fait le plus puissant des modèles RX, parce qu'il y a des RX 350, il y a des RX 450, puis là, il y a des RX 500H.
Il y a le H plus aussi.
Oui, exactement. Moi, j'avais le modèle où il n'y avait pas d'hybride branchable. Là. C'est un modèle... C'est un hybride tout court.
Mm-hmm.
C'est un modèle, je vous le dis au départ, là, 85 000 $ avec les options qu'il y avait dedans, donc c'est pas à la portée de tous. Mais Lexus ont le chic de faire des modèles qui sont extrêmement bien faits, qui sont bien finis, qui sont fiables, qui sont agréables à rouler. Honnêtement, moi qui n'ai pas le propre d'aimer les VUS, j'ai eu pas mal de plaisir dans ce véhicule-là. La puissance est bonne. Là, on parle de 366 chevaux dans ce moteur-là avec l'hybridation. C'est pas sportif, là. Pensez pas, parce qu'il y a beaucoup de chevaux, que c'est sportif.
C'est un petit S dans VUS.
Oui, absolument. Mais ça tient bien la route. Le système quatre roues motrices est efficace. On a eu de la neige, là, la semaine passée, là. J'ai eu l'occasion de l'essayer dans la neige. Très maniable. Par contre, au niveau du volant, on sent pas grand-chose. Mm-hmm. J'apprécierais d'avoir un petit peu plus de retour de sensation dans le volant. Dans la neige, bon, oui, ça tourne, tout ça, mais on n'a pas... On dirait que là, on est un peu en partie déconnecté de la route avec le volant. J'ai moins aimé cette sensation-là. Mais point de vue finition, écoute, là, il y a un bloc d'instruments, un fichage numérique qui est très bien. On s'est finalement débarrassé depuis déjà quelques années de la foutue plaque tactile.
Le fameux pavé tactile. De souris. Ah,
on l'a hissé dessus. Non, il y a une interface multimédia avec un écran de qui fait presque 10 pouces. On a même une unité de 14 pouces que j'avais, moi, dans le mien, qui est en option. Apple CarPlay, Android Auto, ça fonctionne extrêmement bien, sans fil en plus, effectivement. C'est de série dans ce modèle-là. Même le graphisme là, est très bien fait. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Tu sais, quand on le fait et que c'est intuitif, ça veut dire que c'est bien fait. Parce que nous, on change de véhicule à chaque semaine. Alors, quand moi, je m'entête pendant 15 minutes à chercher à quoi sert un bouton, c'est parce que c'est mal fait.
Oui. On est en éternel apprentissage.
On est en éternel apprentissage d'un modèle à l'autre. Et ça, tu rentres là-dedans, boum, boum, boum. Puis là, ben, il y a le fameux Lexus, parce qu'on travaille sur Android, exact. Comme on fait Mercedes ou je sais pas qui, là, nommez-le. On nous a envoyé un document, il y a près de 50 pages
pour bien comprendre le système.
Pour bien comprendre le système et tout ce qu'on peut demander.
Est-ce qu'une machine espresso, ça peut nous faire un café, ça serait vraiment
exactement. Oui, bon, ça, c'est une autre affaire, ça pourra venir un jour. Les modes de conduite, ça, c'est là où j'ai accroché un petit peu. Il n'y a pas de bouton ou de molette pour le faire, il faut trouver ça dans le menu, au départ.
C'est vrai, sur
l'écran. Ça, c'est un peu tannant. On le fait, puis... Honnêtement, les différences entre chaque mode.
J'allais demander, est-ce que c'est rendu du marketing, ça? Parce que ça ne change pas souvent grand-chose et je ne sais pas à quel point les gens utilisent le sélecteur de mode dans leur véhicule quand ils en ont un.
Bien, moi, quand ça vaut la peine, tu sais, quand tu as un mode sport qui est vraiment un mode sport,
quand tu
dis,
sens,
ah, là, j'ai vu une différence. Mais tu sais, quand tu passes d'un à l'autre, puis tu dis, bon, OK, je passe d'un à l'autre, j'essaye, je tourne, puis me semble, je ne vois pas une grosse différence.
Ben, l'éclairage est vert au lieu d'être bleu.
Oui, mais tu sais.
Il
y a un éclairage rouge en mode sport. Mais bon, effectivement, les graphismes vont changer. Mm-hmm. Mais il faut aller dans le menu. Ça, là, mettez-moi une molette. Puis mettez-moi un normal, neige, sport, drift. Mettez ça comme vous voulez. Mais là,
que ce soit visible et utilisable manuellement.
Chaque fois que tu quittes les yeux de la route pendant 2 secondes, ça fait bip bip. You have been distracted, blablabla.
Oui,
ben oui.
Vrai,
ben oui, j'ai été distrait. Je cherche le maudit mode de conduite dans ton tableau, puis je le trouve pas, là.
Ils ont mis une caméra derrière le volant.
Oui,
sur la
c'est,
colonne de direction,
puis c'est même achalant parce que ça, écoute, là, elle m'a averti 100 fois pendant la semaine.
Beaucoup de faux positifs
dans ces alertes. Puis, écoute, je regardais pas le paysage, là. Je jetais un œil. À un moment donné, je cherchais un papier. J'ai dit, je l'ai tué à côté de moi. Puis, j'ai regardé le siège du passager, puis là, blip, blip, blip. You have been distracted, là. Prenez une pause. Hey, on se calme, là. On se calme. C'est pas si effrayant que ça. Mais je dirais que dans l'ensemble, la conduite est intéressante. Et il y a assez de puissance pour avoir du plaisir. Bon, ils ont appelé le système quatre roues motrices le Direct 4. C'est le nom qu'on lui a donné.
Pourquoi pas?
Qui va bien. Mais je dirais que bon, comment dirais-je?
Ouais, comment dirais-tu?
Je cherche le bon mot parce que je veux pas être méchant.
Je me souviens pas, c'est un système électronique ou si c'est engagement mécanique?
Non, c'est un système électronique, mais qui travaille bien.
OK.
J'ai eu plus lent que ça sur un modèle que j'avais Volvo il y a 2 semaines. Il a mieux travaillé que ça, il y a moins de délais, mais c'est pas féroce. Je cherchais un bon mot, là, mais j'ai féroce ou dynamique.
Ça surcompense.
La puissance est toujours là, mais jamais, ça vous saute pas au visage. Il y a un peu de travail à faire, mais ça vous laisse pas sur votre faim. J'ai pris quelques courbes, là, de façon un peu plus énergique. puis le moteur suivait très bien. Mais encore une fois, la direction n'est pas à la hauteur. Ouais. Ça prendrait un petit peu plus, même en mode sport, il en manque encore un peu.
Je pense que ça doit être fait volontairement pour... il doit avoir une clientèle bon, je Lexus
pense,
qui aime ça
je
ça.
Pense ouais. que la clientèle Lexus n'est pas à la recherche de performance, mais c'est extrêmement confortable. J'ai très bien insonorisé, très bien fini les cuirs, la présentation, les matériaux, rien à dire. Ça, c'est 10 sur 10. Franchement, là, Lexus ont le propre de faire un intérieur qui est extrêmement bien monté. Et on a fini la semaine quand même avec du 10 litres au 100. L'hiver, avec un moteur qui fait un peu plus de 350, en fait 366 chevaux, mm-hmm. C'est extrêmement bien. Donc, de ce côté-là, rien à redire. Et vous aurez un véhicule plus fiable que n'importe quel Allemand comparable. Oui. Ça, au départ, ça, quand vrai. On parle de Mercedes, d'Audi, de BMW, vous allez être en avant. Vous n'aurez pas le charisme, peut-être, de ces modèles-là. Mais vous pouvez faire des grimaces à vos voisins.
Ouais, parce il y a sacré gueule, le RX, quand même.
Oh, oui, puis vous allez être au garage pas mal moins souvent qu'eux autres. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que c'est un modèle que je recommande très fortement. Là, bien monté, bien calibré. Et oui, c'est 85 000 $ mais si vous allez voir la concurrence, vous êtes à la même place. Mm-hmm. Même que dans certains modèles, si on commence à équiper un GL... ou l'équivalent chez Audi, c'est même un petit peu plus grand. Ça serait l'équivalent d'un SQ5 ouais. En termes de puissance, parce que c'est à 350 et quelques. Donc, il faut aller voir là. C'est 90 000 et plus. Bon, puis un Macan, on oublie ça. Un Macan équipé, t'es passé 100 000 depuis un grand bout de temps. Donc, non, dans l'ensemble, très, très beau modèle que je recommande. J'aimerais ça qu'on lui donne un petit peu plus de dynamisme. Mais c'est pas mal le seul reproche que je suis capable de faire. Puis en passant, on peut tirer 1585 kilos. Je dis ça comme ça pour ceux qui se demandent si on peut tirer.
Ça,
avec.
C'est 4 000 livres, c'est combien ça?
1585 kilos, c'est à peu près 3 000 et des poussières. Là. Ouais, exactement. Alors voilà, ça complète notre essai, nous, cette semaine. Et ça complète notre émission.
Ben voilà.
Alors merci d'avoir été là. On vous souhaite une bonne semaine. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.